Et si nous redevenions humains? Sophie vous invite à questionner vos croyances pour aller plus loin dans votre quête de conscience au service du vivant. Ce podcast est fait pour encourager les chercheuses et les chercheurs en humanité, leur donner des clés issues de l'expérience concrète de Sophie dans les domaines de la parentalité, des collectifs et de l'accompagnement de l'enfant. Bonne écoute!
Bonjour!
Bonjour!
Alors Laurent, aujourd'hui, nous avons décidé de parler de gouvernance dynamique. Deux mots que nous avons assemblés après avoir exploré pas mal d'écoles qui existaient déjà. Donc cette pratique, elle s'est élaborée au fil des expériences.
Plus ou moins vertueuse et plus ou moins réussie.
Au départ, on était dans quelque chose de très intuitif parce que ça reposait plus sur l'envie de faire autrement. De quitter le système hiérarchique et pyramidal, ordinaire, y compris pour les prises de décision à la majorité, des choses qui sont connues dans notre société, mais qui souvent, dans les initiatives alternatives, sont remises en question.
Oui, et puis même au-delà de ça, on était juste dans notre intention pure de vouloir faire les choses bien, d'une façon à la fois honnête, intègre et participative. Moi, je me souviens très bien des débuts du projet où on était... On ne savait pas du tout comment on allait le faire, mais ce qu'on voulait, c'est que tout le monde soit bien, tu vois.
On avait déjà un peu cheminé à travers la communication non violente, souviens-toi. Et puis, les premières années, on utilisait un mot pour prendre les décisions, c'était le consensus.
Oui. Du coup, ce n'était pas vraiment quelque chose de très élaboré, mais c'était à la fin d'une discussion sur un thème où on sentait que ressortait une espèce de synthèse qui était acceptable pour tout le monde. On dit bon, ben voilà, on synthétise, on dit que c'est ça. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord? Et puis à ce moment-là, ben, s'il y avait du silence, on dit bon, ben c'est super, on est content, on a décidé ça. Voilà, c'était un peu comme ça.
C'était un peu l'attente que tout le monde dise oui à la décision.
C'était un oui qui était tranquille. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'adversité parce qu'on était tous en conscience que de toute façon, s'il y avait un problème, quelqu'un allait le dire. Et que du coup, le problème, on allait travailler ensemble dessus jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de problème. C'était assez simple. Hein.
D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a eu une fois un blocage assez important sur une décision à prendre pour le projet architectural.
Oui.
Il y avait une personne d'un certain âge, elle devait avoir entre 60 et 70 ans, je pense, qui était complètement, complètement bloquée à l'idée que tout le hameau serait construit avec des toilettes sèches.
Absolument. Et effectivement, du coup, on a tous considéré que cette objection était valable, parce que en effet, elle avait des arguments solides, hein, je me souviens, parce que elle avait connu les latrines au fond du jardin, qui étaient des choses pas possibles, et du coup, elle était un peu traumatisée, on a tous pris du soin à cet endroit-là pour elle, et la façon qu'il y a eu de lever son objection, je me souviens, enfin, c'était pas vraiment une objection, mais à l'époque, on n'utilisait pas encore ces termes.
Elle pouvait pas imaginer vivre comme ça.
Voilà, et du coup, ça la ferait partir du projet. Donc c'est ça, elle pouvait pas imaginer vivre comme ça, et que s'il y avait des toilettes sèches partout, elle partirait. Et que pour nous, c'était pas du tout juste qu'elle parte, alors qu'on n'avait jamais dit qu'on allait le faire, qu'on savait qu'on avait des valeurs écolo et tout ça, mais on savait pas encore quelle forme ça prendrait. Et effectivement, notre façon de nous en sortir, c'était de prévoir une évacuation d'eau vanne, en fait, d'eau des toilettes, pour des toilettes à eau, dans les constructions architecturales, pour qu'elle puisse se projeter et dire « Ah ben ok, ben, si c'est comme ça, si vous me laissez le choix, si vous nous laissez le choix, alors à ce moment-là, je peux rester. »
On avait un peu étayé cette proposition en disant que si jamais on devait revendre ce hameau, ce serait plus facile d'avoir des évacuations de toilettes à eau, et donc quitte à les poser et puis leur poser un bouchon si on ne les utilise pas, mais qu'elles existent déjà dans les constructions. Et je me souviens aussi qu'il y avait une décision qui était de faire venir différents modèles de toilettes pour que cette personne puisse voir que les toilettes sèches, ça ne ressemblait pas forcément à ce qu'elle avait connu.
Oui, c'est vrai qu'on avait même dépensé une somme importante pour faire venir une toilette super sophistiquée du Québec, je crois, ou je ne sais pas d'où, là. Hein, qui était vraiment un toilette composteur tout en un, super beau, un peu high-tech d'ailleurs, parce que c'était électrique, je crois, je me souviens. Il y avait une résistance, enfin bref, c'était tout un truc. Mais c'était l'effort qu'on a voulu faire au tout début. Voilà, c'est pour dire vraiment cette histoire de désaccord qu'il peut y avoir ou de personnes qui sont limitées par quelque chose, qu'on essayait d'intégrer au maximum.
Oui, puis on était dans l'enthousiasme des débuts, on était toujours très contents de se retrouver, on était en train de construire un rêve tous ensemble, donc c'était enthousiasmant, il y avait beaucoup de joie, de générosité, d'écoute, de solidarité. Je pense que c'est pas forcément dans ces moments-là qu'on est le plus en difficulté en termes de gouvernance.
Oui, sauf que ça procède aussi d'une ambiance que nous, on avait créée. C'est-à-dire que je pense que ça peut arriver beaucoup plus vite dans certains contextes, même d'éco-village ou quoi, parce que finalement, il y a des velléités qui s'affirment peut-être de manière beaucoup plus spontanée et beaucoup plus rapide. Nous, c'est vrai qu'on avait déjà, t'avais déjà démarré l'école, on était déjà dans quelque chose de concret. Donc les gens arrivaient, on avait déjà un capital confiance. Et puis tout ce qu'on développait en dehors des réunions, c'est nous qui le développions et qui avons à chaque fois des succès, puisque on avait trouvé l'architecte, on avait trouvé un terrain, on avait trouvé ci, on avait trouvé ça, on avait un notaire. Enfin, ça c'était notre énergie à nous. Donc le contexte de la gouvernance dans ce contexte-là, je dirais, je pense, admet beaucoup plus facilement que bah, il y a des locomotives d'un côté et puis des gens qui suivent de l'autre.
Oui, sauf que rappelle-toi, il y a eu quand même des premières grandes questions de gouvernance qui étaient liées au fait qu'on avait pris en tant que porteur de projet des initiatives ou on avait pris des devants sur des questions qui étaient vitales pour le projet, mais qui ont touché certains membres du groupe qui pouvaient se sentir exclus de la décision. Peut-être qu'en termes de repères, pour que tout le monde comprenne bien comment on est rentré dans un projet collectif, c'est de dire que comme on devait construire des habitats, on se voyait régulièrement avec le groupe des futurs habitants. Je pense que c'était 2 jours tous les 2 mois, quelque chose comme ça.
C'est ça.
Et que c'est à ce moment-là qu'on était confronté à des questions de prise de décision. Et que c'est par cette porte-là qu'on est rentré dans la gouvernance, qu'on a appelée transitoirement après la gouvernance partagée, mais d'abord par des notions de consensus, des groupes de travail, des commissions, donc un travail collaboratif qui s'est déroulé assez naturellement et plutôt joyeusement, mais que les premières confrontations un peu frontales entre certains futurs habitants et nous en tant que porteurs de projet sont intervenues au moment où nous n'avons pas pu totalement respecter les décisions qui se prenaient pendant ces week-ends-là. En tout cas, il s'est passé une forme de distorsion entre les projections du groupe élaborées pendant les week-ends de
Les
travail
volontés.
et le réel de ce qui pouvait se passer ensuite dans le déroulement du chantier. Ce qui est vrai aussi, c'est que on s'est rendu compte que la prise de décision partagée, que ce soit au consensus ou autrement, elle a ses limites. Et nous, on a été confrontés à des limites très matérielles même, parce que à un moment donné, il s'agissait de ne pas perdre le projet, tout simplement parce que il y avait une sorte d'injonction à respecter les décisions du groupe alors qu'elles n'étaient plus adaptées.
Bon, voilà, on va prendre un exemple très simple parce que je crois que c'est super important d'être précis parce que on est vraiment là, on touche le cœur du pourquoi en fait on peut avoir des problèmes dans certains modes de fonctionnement. C'est que voilà, le groupe prend une décision mûrement réfléchie pour laquelle même il y a eu de l'investissement en temps, en argent, à tous les niveaux. Et en fait, ce groupe-là, donc on parle de 30 personnes. Là, on parle d'un concours d'architectes. Hein. À l'époque, c'est pour construire un éco-village. Donc, c'est vraiment beaucoup de moyens. Et je crois qu'on dédie 2000 euros par architecte, me semble-t-il. On fait un concours. Donc, il y a deux ou trois. En tout, ça nous a coûté 6000 euros, je crois. Il y a trois architectes avec 2000 euros chacun qui doivent vraiment plancher sur toute une organisation. Et nous, on les confronte, en fait, pour savoir lequel on va choisir. Donc, c'est vraiment une situation où il y a beaucoup d'enjeux. Et dans cette situation-là, en la faisant courte, ils passent les uns après les autres et le groupe décide d'associer deux cabinets d'architectes, en faisant simple. Et de cette association va naître le super projet dont tout le monde rêve. Ça, c'est la décision du groupe. Et nous, on se retrouve avec, du coup, Sophie et moi, la patate chaude, entre guillemets, en disant, bon, bah, il va falloir appeler les uns et les autres parce qu'ils ne sont même pas au courant de la décision qu'on prend. Mais tout le monde sort du week-end en étant très content, en disant, bah, ça y est, on a notre solution, on a notre projet. Et nous, derrière, il faut qu'on exécute la décision. Donc on va réunir les deux architectes. Déjà, il faut les convaincre. Ils ne sont pas super chauds, hein, ni les uns ni les autres sont pas super chauds. Mais comme c'est la volonté du groupe et qu'en plus le groupe, c'est vraiment un chouette projet, etc., ils disent, bon, bah, d'accord, on va tenter de le faire. Donc rendez-vous est pris sur les terrains avec donc les deux cabinets d'architectes. Et là, on va essayer de les mettre d'accord. Et ils vont essayer de se caler pour arriver à s'entendre. Et en fait, on va la faire courte, mais globalement, à ce moment-là, lors de cette réunion, on a une injonction absolue qui est que la validité du certificat d'urbanisme ne sera pas reconduite et que donc le permis de construire doit être déposé dans une certaine date. Et que ça, nous, on le sait, on a été bien formés par ça, on sait que la mairie, c'est compliqué et que il faut absolument respecter les termes des règles de l'urbanisme, sinon le projet carrément court à sa perte. Hein. On n'aura pas de renouvellement du certificat d'urbanisme dans cette zone. Donc c'est vraiment un enjeu majeur. Donc un architecte, il est censé connaître ce genre de choses-là. Et moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir si ils vont pouvoir rendre leur copie, c'est-à-dire le permis de construire, en temps et en heure. Sachant que ce contexte-là, je leur ai donné, ils le connaissent, et à ce moment-là, en face de moi, j'ai des personnes qui ne sont pas du tout habitées par cette problématique-là. Elles disent que de toute façon, il n'y a pas de problème, on n'aura qu'à en redéposer un. Je leur ai dit que la mairie, ça allait être compliqué, que le certificat d'urbanisme, le jour où il serait plus valable, c'était terminé. Donc moi, pour faire court, je ressors de cette réunion, je sais que ce ne sont pas les bonnes personnes parce qu'elles ont des agendas qui ne sont pas compatibles avec les délais incompressibles que notre projet doit respecter pour qu'il soit réaliste. Et là, bah c'est un gros moment de solitude parce que j'ai derrière moi 30 personnes qui ont décidé quelque chose que je me sens totalement incapable d'accomplir.
Et comme tu l'as rappelé, il faut vraiment qu'on avance sur la faisabilité de ce chantier. Il y a une urgence parce qu'on sait que le certificat d'urbanisme, effectivement, c'était une bizarrerie administrative qui avait sans doute été consentie dans le cadre
D'une
d'amitié
histoire.
rurale, enfin, comme ça peut se faire dans les petites mairies, mais que vu comment on a été accueilli en tant que projet alternatif sur la commune, on sait très bien qu'on a une cartouche et on n'en a pas deux.
Exactement.
Et que c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment avancer de manière très dynamique et rythmée pour pouvoir avoir une chance de voir ces maisons sortir de terre. Et on a déjà constitué la société civile, les premiers habitants ont déjà versé au capital, on a déjà dépensé une partie de ce capital pour les premières études. Donc on est quand même très très engagé. Donc il n'est pas question de faire un retour en arrière.
C'est ça.
Il est question d'avancer. Et là, on est très embêtés tous les deux parce qu'on sait que tout le travail qui a été fait pendant un week-end par les habitants, eh ben, il tombe à l'eau en quelque sorte. Et que nous, on se sent néanmoins responsable de la suite à donner.
On est dans l'impératif. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a 30 personnes qui ont décidé, comme tu viens de le dire. On essaye de respecter leur engagement, on essaye de respecter leur décision. Et en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas la bonne décision, qu'elle n'est pas réaliste, et que en même temps, on est dans un impératif de trouver une solution rapide. Ça, c'est notre contexte à nous.
Et alors là, ça sort un petit peu du cadre de ce dont on parle, et en même temps, ça a quand même un lien. C'est que quand on est porteur de projet, il y a quand même de nombreuses intuitions qui se manifestent. Et il se trouve que à plusieurs reprises, on entend parler d'un homme, d'un architecte qui vit pas très loin de là où on va construire. Et son nom revient et revient et revient encore. La manière dont on en entend parler, nous confirme plutôt dans le fait que c'est lui qui aurait le plus de compétences pour nous accompagner dans ce projet. Donc là, on se trouve dans une situation très étrange, qui est qu'on a une très forte intuition de qui est l'homme de la situation et que ce n'est pas le choix du groupe.
Alors qu'au départ, le choix du groupe, on l'accepte. Hein. On n'est pas du tout. Voilà, on a vécu le week-end avec eux. C'est ça qui est décidé. Nous, on n'a pas vraiment de. On trouve ça un peu, peut-être un peu compliqué parce qu'on sait qu'il va falloir convaincre peut-être des architectes de travailler ensemble et que peut-être ils n'ont pas trop envie. Mais ça nous va. Ça nous va de le faire.
Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, on va voir cet architecte chez lui, là où il avait rénové sa maison avec ses propres méthodes. On parle avec lui et là, on est complètement nous confirmés dans le fait que
Bah que c'est lui.
c'est lui qui va le faire. Et on lui propose de notre propre initiative, du coup. Et ça, c'est quelque chose qui a pu être vécu avec difficulté par certains membres du groupe. de revenir pour présenter un projet qui serait adapté à la situation.
Si on réalise que c'est l'homme de la situation, c'est parce qu'en discutant avec lui, chez lui, c'est une personne qui a fait son mémoire d'architecture sur les oasis, sur les écovillages. C'est quelqu'un qui a entièrement rénové sa maison avec des ballots de paille en autoconstruction. Donc, il coche absolument toutes les cases à la fois philosophiques et techniques. Et surtout, la cerise, vraiment, là où moi je dis c'est l'homme de la situation, c'est au-delà des techniques et de la philosophie, c'est quelqu'un qui est prêt à dédier toute sa vie pour arriver à finaliser et signer le permis de construire en temps et en heure. Parce que moi, je suis toujours pétri de cet impératif-là d'avoir déposé le permis de construire avant le 18 août 2006, je crois, si je ne m'abuse. C'était une date tellement fatidique que je m'en souviens. Et il fallait absolument que cet architecte ait remis son dossier en temps et en heure. Et moi, je lui pose la question solennelle et fondamentale en lui expliquant bien ce que je viens de dire là. Et il me dit, écoute, ça va être super difficile, je vais y passer mes nuits, parce que compte tenu de l'ampleur du projet et du temps qui est imparti, à l'époque, il reste à peine 6 ou 7 mois, je crois. Enfin, et c'est plus du tout le confort d'avoir 2 ans devant soi hein, pour dessiner 20 maisons quand même, hein, et tout ce que ça implique. Il me dit, mais je te garantis que je vais tout faire et j'arrête tous mes projets et je me lance là-dedans parce que c'est le projet de ma vie. Et là, moi, je me dis, ok. Lui, il a compris où on en est, il connaît le contexte de la mairie, il a vu que le certificat d'urbanisme ne sera pas renouvelé, et il sait que c'est un one shot, et qu'il doit être à la hauteur de la situation pour rendre ce travail-là. Et là, moi, je me sens effectivement dans une capacité de revenir vers les habitants en leur disant qu'on a fait nos meilleurs efforts.
Oui, si on vous raconte tout ça, c'est vraiment pour vous prendre une situation de gouvernance qui est particulièrement interprétable, parce qu'on pourrait imaginer dans cette situation que finalement le consensus c'était juste une forme préalable pour faire exister une sorte d'idéal, et qu'en fait les porteurs de projet prennent les décisions et prennent la décision finale. Et c'est vraiment quelque chose qui a pu nous être reproché. Même si à un moment donné c'est nous qui tenons la vision de là où il faut aller pour que le projet se réalise tout simplement. C'est pas une préférence à cet endroit-là. C'est vraiment un
Un
incontournable
rôle.
pour que le projet se réalise. Donc, pour que nous, on puisse faire notre job de porteurs de projet qui sont missionnés pour faire aboutir ce projet architectural, il y a cet endroit où nous voyons qu'il n'y a pas plusieurs routes, il n'y en a qu'une. Et du coup, on a le devoir et on a pris soin d'informer correctement tous nos partenaires des raisons de cette situation, et de pouvoir les ramener au cœur de cette situation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la rencontre avec cet architecte a eu lieu, il a détaillé son projet, il a même fait une maquette pour montrer les maisons qu'il pouvait réaliser. Et de toute évidence, à la fin, c'était une excellente option. Et tout le monde en a convenu. Néanmoins, ça a posé un problème de démocratie à certains, et c'est une histoire qui nous a suivis pendant des années. Donc c'est intéressant de d'éplucher un petit peu ce qui s'est passé à cet endroit-là et comment on est arrivé à cheminer vers la gouvernance dynamique.
C'est que de cet exemple-là, effectivement, naît déjà nous notre sentiment que le mécontentement lié à cet aboutissement, finalement, à cette arrivée d'un nouvel architecte et tout ce qu'on vient de développer, on ne le comprend pas. Moi, je ne le comprends pas. C'est-à-dire que des gens puissent s'accrocher à un mécontentement, alors qu'on a trouvé une solution qui est réaliste et qui permet au projet de survivre, parce qu'on est vraiment dans ces enjeux-là. Et qu'on vienne s'appuyer encore et nourrir en fait quelque chose de l'ordre de oh non, mais de toute façon, Sophie et Laurent, ils font ce qu'ils veulent, etc., etc. Là, déjà, moi, je sens qu'il y a un truc qui colle pas et qui. Alors, on n'en fait pas beaucoup à l'époque parce que heureusement, il y a beaucoup, beaucoup de belles choses. Mais c'est déjà un début d'intuition qu'il y a un truc qui va pas.
Mais il y a eu d'autres situations, hein. Je me rappelle du licenciement du chef de chantier, qui est une décision que nous avons prise avec l'architecte pour d'excellentes raisons. C'était quand même nous qui étions sur le terrain à guider ce chantier, et c'est quand même nous qui avions le vécu de la relation avec cet homme, et on était vraiment unanimement d'accord pour mettre fin à cette prestation parce qu'elle n'était tout simplement pas du tout en adéquation avec nos valeurs et avec la façon dont on entendait mener ce chantier. Mais les personnes qui n'étaient pas là pendant 2 mois parce qu'elles étaient dans leur vie ordinaire en attendant que leur maison se construise au hameau des Buis, ben, quand elles revenaient et qu'elles apprenaient certaines situations, et surtout qu'elles recevaient les doléances des personnes qui se sentaient ben, forcément affectées par des décisions que nous pouvions prendre, ce sont ces personnes-là qui étaient touchées émotionnellement par les situations qui ont commencé à entretenir une forme de clivage relationnel entre les fondateurs porteurs de projet que nous étions et le groupe ou une partie du groupe qui pouvait interpréter nos positions comme étant parfois abusives ou des positions de pouvoir. Et j'ai une autre situation encore dont je me souviens, c'est une personne qu'on va appeler Geneviève, que nous avions perçu comme quelqu'un d'extrêmement fragile psychologiquement et que nous avions écarté du projet à un moment donné. Je ne sais pas si tu te souviens. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous a été très fortement reproché parce que nous étions les interlocuteurs privilégiés de la plupart des acteurs ou des gens de passage même qui se rapprochaient du projet pour voir s'ils pouvaient s'y intégrer ou y jouer un rôle, etc. Donc, quand les personnes voulaient contribuer ou participer à ce projet-là, ben, les interlocuteurs, c'était nous la plupart du temps. Et donc, c'est nous aussi qui prenions parfois la décision, à partir des éléments qui nous étaient donnés, de mettre un terme à une relation. C'est arrivé exceptionnellement, mais c'est arrivé. Et il se trouve que ça aussi, ça peut être interprété par un groupe qui regarde ça de loin. Et il se trouve que cette fois-ci, ça avait même provoqué une réunion exceptionnelle, je ne sais pas si tu te souviens, de plusieurs habitants qui nous trouvaient abusifs parce qu'on avait écarté cette personne qui avait 2 enfants à l'école d'ailleurs, avec qui ça s'était vraiment très très mal passé.
Et au final, en fait, il s'est avéré que cette personne a fini, enfin, elle n'a pas fini, mais elle a été internée pour enfin, en psychiatrie, parce qu'il y avait vraiment des. On a su après coup qu'elle avait des comportements beaucoup plus abusifs que ce qu'on pensait, et qu'en fait, il y avait une vraie maltraitance vis-à-vis de ses enfants, et que c'était de l'ordre de la psychiatrie.
C'est ça. Donc toutes ces situations qu'on vous raconte, ça nous montre quoi? Ça nous montre une chose, c'est que il y a cette prétention de vouloir prendre les décisions tous ensemble. Or, tout le monde n'est pas responsable dans le quotidien qui va suivre la décision. Donc en fait, il y a l'espace de prise de décision et après, il y a le champ d'application des décisions. Et ce qui est mis en jeu dans les exemples qu'on vous a donnés, c'est quand même la réussite du projet. C'est la réussite du projet qui est en jeu. Et certains rôles qui sont des rôles à responsabilité comme des porteurs de projet sont un peu l'interface entre le projet et le groupe qui attend l'incarnation de ce projet.
Mais alors là, on va te rétorquer à juste titre, oui, mais peu importe le projet, parce que sinon on sacrifie tout au projet. Ce qui est important, c'est l'humain. Hein, on a beaucoup entendu ça. Et en fait, là, j'ai envie de dire d'accord, mais alors ceux qui disent ça, est-ce qu'ils ont mis toute leur vie dans la balance par rapport à un engagement de vie? Est-ce que.
Est-ce qu'ils sont prêts à assumer le fait que le projet s'effondre?
Voilà, est-ce qu'ils sont prêts à assumer le fait qu'ils perdent toutes les économies de leur vie? Hein, on parle d'enjeux comme ça, là, on ne parle pas de petites choses. Donc. Nous, on a été vraiment dans des situations où il fallait assumer, endosser en fait des rôles et des responsabilités qu'on avait acceptées pour faire en sorte d'accomplir une mission. Et cette mission-là, il fallait la mener à terme.
Pour un groupe qui cherche à développer une culture de la démocratie participative, d'une véritable démocratie où il n'y a plus de relations de pouvoir, on est vite confronté à des situations du réel comme celles qu'on vient de vous raconter et qui finalement refont le lit d'une forme d'interprétation connue où il y a une autorité et un groupe qui subit cette autorité, ou en tout cas qui pourrait avoir l'impression qu'il s'agit d'une forme d'autoritarisme, alors qu'en fait ce sont juste des fonctions, des décisions qui sont guidées par la réalité de ce qui se passe dans l'exercice d'une fonction.
Et donc, plutôt que de s'accrocher sur ah ben les choses se sont pas passées comme on voulait, être vraiment dans une vision beaucoup plus large que ça, en disant ok, ce qu'on pensait qui pouvait être réalisé ne peut pas être réalisé, on comprend ce qui se passe et on accueille complètement le fait que déjà, même si ce qu'on voulait n'est pas réalisable, est-ce qu'il y a une autre voie qui est possible? Et oui, il y a une autre voie qui est possible. Donc on peut déjà se rassurer de se dire, bah c'est génial, les rôles, les responsables ont trouvé une solution.
Mais c'est-à-dire qu'on part d'un idéal qui est, on va prendre les décisions tous ensemble. On va tous décider.
Oui, mais en même temps, on se heurte à la réalité qui se manifeste de manière beaucoup plus frontale que les idées qu'on peut avoir, et de bien voir que les choses qu'on essaye de décider ensemble, des fois, sont réalisables, d'autres fois, non. Et est-ce que c'est la faute à quelqu'un si ce qu'on a décidé se réalise ou ne se réalise pas? Si on a fait ses meilleurs efforts, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre?
Et c'est le rôle d'un porteur de projet ou d'un dirigeant de pouvoir piloter en dynamique et d'adapter les solutions au réalisme de la situation. C'est comme un capitaine de bateau. Oui, l'objectif, c'est d'aller atteindre l'autre rive, mais il se trouve qu'il se retrouve en plein au milieu d'un banc de baleines et qu'il doit faire un détour, à ce moment-là, il ne va pas retourner vers toute son équipe pour assurer des principes démocratiques et pouvoir dire « je ne peux pas prendre la décision tout seul, il faut que ce soit une décision collégiale ». À ce moment-là, lui, il sait que le cap, l'objectif, c'est d'aller de l'autre côté. Et en dépit de ce que a pu prévoir le groupe, s'il y a un imprévu ou s'il y a quelque chose qui, pour la santé du projet, est plus favorable, ça devrait être reconnu dans son périmètre de pouvoir prendre cette décision.
Et c'est là où la gouvernance dynamique arrive et où là, moi, je parle du joker. C'est-à-dire que, et ce qui fait bondir la plupart des tenants de la gouvernance partagée, hein, qui veut absolument ne jamais, 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 jamais renoncer, en fait, à ce pouvoir du collectif, de l'ensemble des protagonistes d'un projet ou d'un groupe. Là où moi, je vais pouvoir poser le fait que, non, à l'intérieur d'un groupe, il y a une personne ou un organe ou un collège ou quelque chose qui détient une capacité que les autres n'ont pas. Et qu'à cet endroit-là, c'est très précis, c'est effectivement délicat, parce que cette personne-là, ce rôle-là, va incarner potentiellement une voix qui n'emporte pas l'adhésion de l'ensemble du groupe.
Et ça peut être vécu comme un abus. Et du coup, à travers ces situations, la plupart des gens retrouvent le schéma relationnel qu'ils connaissent le mieux, qui est le schéma relationnel dominant-dominé. À cet endroit-là, les dirigeants ou les porteurs de projet ou les fondateurs vont être vécus comme une autorité abusive.
Et ce que ressentent les gens qui est vrai pour eux, c'est de l'abus. Ils ne voient pas, c'est une espèce de voile, de filtre, en fait, par rapport à leur perception des choses, qui colore, en fait, complètement leur perception du réel. Et du coup, la personne qui, elle, voit quelque chose qui est impérativement à faire et qui doit prendre le pas sur l'ensemble des considérations subjectives et personnelles, parce que le projet en dépend, cette personne-là va être vue comme un abuseur. Va être vue comme quelqu'un qui abuse et qui est dans l'autoritarisme, du coup.
Mais d'autant plus si on lui a parlé de gouvernance partagée et qu'elle est venue avec l'idéologie que toutes les décisions allaient aussi passer par elle en tant que participant.
C'est ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles, après avoir vraiment éprouvé, pour le coup, dans notre chair, hein, nous, on l'a vraiment payé, hein, cette histoire de gouvernance partagée, parce qu'à un moment donné, on s'est aperçu que même si c'était une idée qu'on caressait nous-mêmes et avec laquelle on était à l'aise, on s'est vraiment, vraiment heurté dans le cadre de nos rôles, de nos fonctions, à des incompréhensions, des malentendus qui se sont retournés contre nous. Donc c'est certain qu'aujourd'hui, quand on développe la gouvernance dynamique, c'est en conscience de ces phénomènes-là que tout ça, ça n'est pas pour agiter des souffrances, en fait, pour faire ressurgir des souffrances de personnes qui ont été abusées dans leur enfance ou autre. C'est juste pour servir les intérêts communs. Et qu'à cet endroit-là, si ça n'est pas vu par les personnes qui ont des problématiques d'abus, effectivement, on est en face d'incompréhensions, de malentendus qu'on ne pourra pas résoudre. Donc c'est pour ça que, en amont de ces questions-là, on parle de gouvernance dynamique pour vraiment poser le cadre sur la table avant même de commencer à coopérer avec les personnes.
Alors, avant qu'on déroule un peu plus sur la gouvernance dynamique, pour moi, c'est important de préciser que des fondateurs, des porteurs de projets ou des personnes sources abusives existent, y compris dans les projets qui se sont déclarés en gouvernance participative. Et évidemment, ça,
Bien
non
sûr.
seulement ça existe, mais c'est plutôt même assez répandu. Et puis, nous, ça a pu aussi nous arriver de nous rendre compte que notre positionnement, il n'était pas totalement juste ou pas totalement aligné et de devoir revenir sur des positions que nous avions prises. Si on a pu nous prendre conscience que à cet endroit-là, effectivement, peut-être on peut faire autrement, on peut faire plus participatif, la décision peut être remise au groupe, etc.
Mais oui, mais ce qu'on peut reconnaître dans ces cas-là, c'est que quelqu'un qui est dans une posture justement qui est aligné par rapport à un certain nombre de critères, de valeurs ou quoi qu'on sait reconnaître, c'est justement dans la capacité de se remettre en question. Et là où effectivement, ben, ça peut être vu ou pas vu, parce que nous, on a pu nous reprocher qu'on nous remettait pas, qu'on se remettait pas assez en question. Moi, je veux bien entendre qu'il y a des angles morts comme n'importe quelle personne humaine a ses angles morts, mais je peux aussi reconnaître à 300% la façon que j'ai pu avoir, ou que toi tu as pu avoir, d'exercer entre guillemets ce rôle de pouvoir dans une capacité de remise en question. Parce qu'on a eu beaucoup de moments, de situations, de circonstances où on a pu vraiment faire amende honorable, que là on n'avait pas vraiment mesuré à quel point les choses étaient d'une certaine manière qu'on n'avait pas identifiée. Et notamment que certaines décisions qu'on pouvait imaginer devoir être prises, etc., auraient mérité, par exemple, de prendre plus de temps. Et que ça, moi, je vois bien qu'un des biais que j'ai pu avoir, que je peux avoir encore même aujourd'hui, même si ça, je pense que je travaille dessus, mais c'est vraiment d'avoir des fois une rapidité, hein, de ne pas respecter le rythme, par exemple. Alors, des fois, on est obligé de ne pas respecter un certain rythme, par exemple, dans le cas de l'architecte. On n'avait pas le choix. Il y avait un terme juridique qu'il fallait absolument accomplir. Bon, c'était comme ça. On n'avait pas le temps. C'était l'urgence. Mais très souvent, on pourrait se sentir dans l'urgence alors qu'il n'y a pas d'urgence. Et que des fois, ça peut être super important de respecter le rythme d'évolution, d'appropriation d'un groupe, même si le dirigeant, le leader, celui qui a le fameux joker entre les mains, lui, il sait déjà comment ça se passe ou comment ça s'est plié parce qu'il a des connaissances, il a une expérience, une expertise que d'autres n'ont pas. Et c'est là où lui doit se mettre aussi au rythme si le projet n'en souffre pas. Et c'est vraiment ce discernement-là qui semble important pour exercer un rôle qui détient effectivement un espèce de pouvoir que d'autres n'ont pas.
Moi, je me rends compte que cette notion de joker, elle me convient pas, en fait. Parce que c'est comme si tu disais, bon, ben voilà les règles du jeu, elles sont comme ça. Tu vois? Tout le monde y est soumis à ces règles du jeu, tout le monde est logé à la même enseigne, hein. On est tous, voilà. Mais par contre, moi, j'ai le droit de passer par-dessus.
Oui, c'est exactement ça.
Et ça, moi, je suis pas d'accord. En fait, je préférerais qu'on le présente vraiment totalement autrement, Laurent, parce que ça va pas, ça. Si tu te rends compte, c'est le fait du prince.
Alors, ça, c'est vu comme le fait du prince, si derrière, il y a la notion d'abus, de pathologie, de souffrance humaine telle qu'on se la représente et qui est très ordinaire et qui est très répandue et qui est la chose à laquelle on a le plus accès, nous, en tant qu'être humain blessé. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, si on se place du point de vue systémique d'une organisation qui doit avancer dans des conditions acceptables, convenables de développement, d'épanouissement et de santé, alors à ce moment-là, ce rôle-là se justifie.
Non, pas pour moi, parce que, pas en le présentant comme ça. Il se justifie parce que j'ai un rôle avec un périmètre,
Oui.
mais pas parce que j'ai un joker.
Oui,
Parce
mais
que.
le rôle. Alors, oui, mais je vois très très bien, je suis d'accord. Mais le rôle en question, c'est lui qui détient le joker. Donc c'est pas personnel, c'est un rôle. Le rôle, c'est le rôle de premier lien qui attribue les ressources, qui a la vision et qui a en charge la responsabilité de la bonne santé de son groupe, de son cercle.
Oui, mais c'est pas pareil et c'est beaucoup plus clair de dire en dernier, le dernier qui va avoir la parole sur ce thème, c'est celui qui a pris la responsabilité sur sa tête.
Exactement.
Par exemple, si tu es le gérant, que tu es engagé même devant la justice
Oui.
au titre de ton rôle,
C'est ça.
ça me semble tout à fait normal que tu puisses dire non à une décision.
Eh ben, c'est de ça dont je parle.
Donc,
c'est exactement
d'accord,
ça.
Mais
le joker,
mais
c'est
ça. Méfie-toi du terme joker, parce que le terme joker, il fait vraiment genre... oui, le fait du prince. J'ai un droit absolu que les autres n'ont pas.
Alors,
alors
oui.
Que c'est pas un droit, c'est un devoir.
D'accord, mais si tu veux, c'est super intéressant que tu vois, on soit entre guillemets pas d'accord parce qu'on représente deux polarités sur la même qui tournent autour de la même notion en fait. Et moi, je l'ai dit un peu cash, un peu brutalement en disant c'est un joker dans les faits. Parce que dans les faits, si 40 personnes veulent un truc et que toi, c'est ta responsabilité dans, en tant que rôle, tu dis non, je le ferai pas et on le fera pas, et ben c'est toi qui auras raison. À ce moment-là, après, si les 40 ils veulent te virer pour trouver quelqu'un qui va le faire, ce sera toujours possible, peut-être, mais pas dans cet instant. Dans cet instant, c'est ta responsabilité, c'est ton pouvoir personnel qui est mis en jeu face à une situation donnée. Et à cet endroit, c'est toi qui as la possibilité de dire non, si tu dois dire non.
Alors, ça me paraît pas du tout incompatible avec la notion de consentement, mais ce qui s'est passé pour nous à un moment donné, c'est que notre consentement n'était plus entendu, en fait, n'était plus écouté. C'est-à-dire que les personnes, pour pouvoir quand même aller dans la direction qu'elles souhaitaient, sont passées par-dessus notre consentement. Je ne sais pas si tu te souviens de ça.
Bien sûr.
Parce que normalement, effectivement, dans la notion de consentement, il faut qu'il y ait zéro objection. Et qui que ce soit qui a une objection, et a fortiori des rôles, ne pas écouter un rôle dans sa fonction, c'est grave dans la gouvernance telle qu'on la pratique. Donc un gestionnaire, par exemple, qui dirait eh « ben non, on va pas faire cet emprunt parce que ça risquerait de mettre la société en danger et moi, au titre de mes rôles, mon analyse, c'est celle-là. » Et même si quelqu'un d'autre a une autre analyse ou qu'il y a des personnalités qui seraient... peut-être plus téméraire ou plus aventurière avec des questions économiques. Elles ont le droit d'être comme ça, mais comme ce n'est pas leur rôle, elles ne peuvent pas imposer leur point de vue à la personne qui est dans l'exercice de son rôle.
Exactement. Donc ça revient à dire, même si c'est peut-être moins entendable de la manière dont je le dis, parce que c'est vrai que c'est presque volontaire pour moi de secouer le cocotier à cet endroit-là et de poser des termes comme le joker, tout ça. Parce que j'estime que c'est super important qu'il y ait une espèce de choc à cet endroit-là par rapport à toutes les images qu'on a de cet idéal, en fait, qui n'est pas une vraie promesse. Cette promesse n'est pas tenue parce que même dans toutes les organisations que j'ai rencontrées où il y a de la gouvernance dite partagée, où c'est collégial, où soi-disant tout le monde prend les décisions ensemble, etc., pardon, je n'en ai jamais vu qu'ils soient honnêtes, sincères et intègres. À chaque fois, ça se fait dans les coulisses. Il y a toujours des figures charismatiques qui sont induites et qui ont finalement une influence que d'autres n'ont pas. Et que finalement, on va toujours faire les choses que telle ou telle personne, c'est toujours les mêmes vers qui on va suivre. Mais non, 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 pas du tout. On décide tous ensemble. Oui, oui, bien sûr. Non, c'est faux. C'est une hypocrisie. C'est comme la fausse CNV qui fait tant de mal aux gens parce qu'ils voient très, très bien que sous couvert de la non-violence, en fait, on est pire en fait que quelqu'un qui vous fout une bonne engueulée et au moins on sait c'est authentique. Là au moins quelqu'un qui vous engueule c'est authentique. Quelqu'un qui vous dit avec du miel dans la voix des horreurs, c'est bien pire que quelqu'un qui vous engueule pour de vrai. Voilà. Et ben la gouvernance dynamique versus la gouvernance partagée, c'est un peu du même ordre. C'est qu'une gouvernance partagée, ça peut être une vaste hypocrisie qui est pire que si au moins on annonce les choses au départ, on dit bah oui, il y a des rôles, ils ont des responsabilités, c'est eux qui auront le dernier mot si on n'arrive pas à s'entendre et à se comprendre dans ce contexte précis, dans ce temps précis, et que c'est ça qu'on vous sert, et c'est ça qu'on va construire ensemble.
Parce que parfois, la tyrannie ou l'abus ne vient pas des fondateurs ou des responsables. Ça peut venir aussi du groupe en lui-même. Comme on l'a vécu, on a vécu un épisode d'élection sans candidat où, effectivement, comme tu dis, Laurent, il y a eu des personnes plutôt charismatiques, on pourrait dire des leaders d'opinion, qui avaient fait un travail en amont les 15 jours précédents pour aller voir chacun et lui dire comment il devrait voir la situation et pour qui il devrait voter à l'élection sans candidat. Ce qui est complètement une hypocrisie absolue, c'est-à-dire qu'il vaut mieux faire à ce moment-là
Un vrai vote?
Oui, un vrai
Avec
vote,
des
un
vraies
suffrage
élections?
direct, ordinaire, avec des candidats qui vont exposer leurs tendances et vanter leurs mérites. Et puis, chacun va pouvoir voter pour celui qui estimera être le meilleur candidat ou celui qui aura fait la meilleure campagne ou la meilleure communication. Mais on ne fait pas une élection sans candidat préparée à l'avance dans les coulisses. C'est très injuste. Et nous, le sentiment qu'on a eu à ce moment-là, nous qui étions arrivés, qui étions en dehors de toute concertation, qui arrivions de manière totalement ingénue dans la pièce pour faire cette élection sans candidat, on a commencé à sentir que, y avait une forme de consensus entre tout un groupe qui effectivement s'était mis d'accord pour la même chose avec les mêmes arguments. Et donc, ils avaient déjà désigné des vainqueurs avant le moment de l'élection.
Donc ça, c'est tellement, tellement une hypocrisie. C'est-à-dire qu'on se drape des outils de la gouvernance partagée alors qu'en fait, on est complètement en dehors de l'esprit. Et nous, c'est vrai que je me souviens très, très bien ce que tu dis. On est tombé de notre chaise parce que même, il y a eu des moments où les gens ont dit « Ah mais non, tu sais, c'est pas ce qu'on avait dit. » C'est-à-dire qu'on a compris qu'il y avait des gens qui s'étaient réunis avant l'élection sans candidat pour se distribuer les rôles qui étaient... Donc c'était des rôles importants, c'était des rôles juste d'ouverture, en fait, de la gouvernance à d'autres personnes parce que le projet était dans une phase d'évolution. Et qu'en fait, tout ça avait été complètement trafiqué et bafoué d'une manière qui nous laissait sans voix.
Bah, c'est-à-dire que voilà, ça n'avait plus rien à voir avec la gouvernance participative telle qu'on l'avait définie. Les règles du jeu qu'on s'était données n'étaient pas respectées. Or, ce phénomène-là, il est arrivé pour raconter quelque chose aussi, pour nous raconter quelque chose sur les chemins que nous empruntions en termes de gouvernance et de démocratie. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une partie du groupe qui a besoin de contourner ce chemin? Qu'est-ce qui motive cet acte, en fait? Ça nous a questionné là-dessus. Et c'est comme ça, hein, qu'on a cheminé, qu'on a construit la gouvernance dynamique. C'est en vivant les outils qui étaient proposés. En l'occurrence, nous, on avait été formés à la sociocratie, à l'holacratie. On avait pas mal cheminé dans toutes ces nouvelles formes de coopération. Mais c'est en les pratiquant qu'on s'est rendu compte qu'elles avaient des limites et que surtout, c'était aussi le lieu d'expression de pathologies sociales en fait,
Mais
et
c'est ça,
relationnelles.
mais c'est ça, c'est-à-dire que quand on arrive à un endroit où un groupe tout entier pourrait être amené à focaliser son attention de manière négative, hein, avec focaliser du mécontentement sur des personnes qui ont plutôt des réussites, qui ont un leadership naturel, qui sont charismatiques, qui ont réussi des choses en fait, et que ces personnes-là, finalement, le groupe entier en profite, hein, parce qu'ils sont adhérents, hein, dans cette aventure. Là, je parle de notre aventure, mais il y en a plein d'autres, il y a plein d'exemples justement, et c'est là qu'on a commencé à étudier la systémie de la problématique, parce qu'on se aperçoit que notre cas n'est absolument pas isolé, et que ces questions d'un groupe qui commence à être dans une forme de défiance ou de mécontentement, qui au départ est un petit peu léger, mais
Il
quand
devient
même, qui est
chronique.
là, qui quand même s'instille de manière très très fine, hein, et non assumée d'ailleurs au départ. C'est des petites remarques, des petites choses, et puis on en entend aujourd'hui encore, aujourd'hui, là, en 2024. On a des relations autour de nous qui nous parlent de ça. On voit des leaders charismatiques qui sont brillants autour de nous, et waouh, autour d'eux, ça, attention, c'est pas fastoche, quoi. Il y a du monde autour qui est pas super tendre. Il n'y a pas de tendresse à cet endroit-là, hein. C'est un endroit qui est pas tendre. C'est un endroit qui va scruter les points faibles, les failles, et puis qui est toujours prompte à dénoncer, alors que quand on voit, je pense à une ou deux personnes en particulier, quand on voit l'extraordinaire talent, le déploiement de toutes ces choses qui ont des résultats concrets, hein, dans la vie des gens, hein, qui profitent à des cent, on parle de centaines de personnes, hein, qui en profitent, hein, de ce travail colossal, je me dis, waouh, je me dis, mais à quel endroit cette personne, elle est soutenue, ou à quel endroit est-ce qu'en fait on veut la descendre, quoi, quelque part?
Moi, en observant ce qui se passe autour de nous, parce que maintenant, comme on a les yeux et les oreilles grandes ouvertes, puis que je pense qu'on a aussi levé un tabou sur cette question de l'opposition récurrente qu'il peut y avoir entre des fondateurs et des participants, on voit des situations se multiplier, on en voit énormément. Et moi, j'en arrive à dire qu'il y a une violence systémique, en fait, à l'égard des autorités, quelles qu'elles soient. Il y a bien sûr un mécontentement et une rébellion qui est totalement justifiée, qui est celle de la relation de pouvoir et de domination. Mais il y en a une autre qui est finalement un retournement de l'abus. Parce que qu'il y ait autant de projets où les fondateurs ou les porteurs de projets sont mis au banc, sont dénoncés, sont accusés, voire sont exclus de leur projet. Ça, pour moi, c'est pas seulement le signe que on est à un stade de l'humanité aujourd'hui qui veut en finir avec les notions de domination, de pouvoir et d'autorité abusive. Il y a autre chose. Il y a quelque chose qui est injuste et qui est en fait un retournement de l'abus. C'est un retournement de l'abus dans le sens où ça devient quelque chose qui est projeté assez systématiquement sur les personnes qui prennent la responsabilité d'être devant dans un projet. Et assez systématiquement, elles vont se retrouver confrontées à des participants qui leur reprochent d'être à l'endroit où elles sont.
Et c'est une des raisons pour lesquelles cet abus qui se retourne, pour nous, c'est super important de mettre de la clarté dessus et de mettre de la conscience dessus. Parce que ça devient destructeur. C'est destructeur.
Oui, puis ça nuit à la réussite des projets, en fait. Et donc, c'est un handicap. Et je pense que c'est hyper important de mettre de la lumière là-dessus parce que ce que nous voyons, c'est une multitude de projets qui sont mis à mal par ce phénomène.
Là, j'ai un exemple très concret en tête, hein, d'une personne qui, à travers son travail, l'expression de son talent, de sa volonté, de son désir de faire émerger un beau projet, qui met tout en œuvre pour le réaliser et qui le réalise, on va voir émerger des espèces de polarités inverses, de contre-pouvoir à un endroit où il n'y a que du pouvoir créateur. C'est-à-dire que quand c'est du pouvoir créateur, il ne devrait pas y avoir de contre-pouvoir. Un contre-pouvoir peut naître quand il y a du pouvoir sur, quand on domine, et que là c'est normal que derrière il y ait des gens qui s'organisent pour pas être dominés, c'est logique. Mais pas quand on est dans du pouvoir créateur. Là on est dans le cas d'une personne qui crée des choses, qui catalyse, qui vient coordonner un certain nombre d'énergies, de compétences humaines, etc. pour réaliser des choses formidables dont plein de gens profitent. On est vraiment dans le pouvoir créateur à cet endroit-là. Et qu'à cet endroit-là précis, on ait des gens qui en face vont créer du contre-pouvoir, c'est pas juste, en fait.
Alors, si on va un peu plus loin dans cette analyse, on peut se demander quelle est la part qui agit, qui est agissante. Et ce qu'on a vu déjà, c'est que si chacun va pas chercher chez lui son propre pouvoir créateur, et ben forcément, il y a une sorte d'assaut qui se fait sur la personne qui est devant, qui brille, et qui est dans sa lumière en fait, et qui est en train de réaliser ce pouvoir dont on parle et de le mettre en œuvre. Donc il y a de la prédation.
C'est
À cet
ça.
endroit-là, il y a de la prédation. Il y a des personnes qui ont la prétention de prendre la place de celui qui est devant. Et pour y arriver, de manière inconsciente sans doute, elle va prétendre que cette personne est abusive, qu'elle fait de l'ombre, qu'elle est autoritaire, qu'elle prend des décisions qui sont pas forcément les bonnes décisions, qui sont pas les décisions du
Il y a un
collectif.
truc encore plus pervers que ça, que j'ai entendu récemment, c'est oui, mais tu te rends compte, il faut absolument préparer le moment où cette personne ne sera plus là. Alors ça, c'est le truc un peu à la mode en ce moment, c'est-à-dire oui, mais tu te rends compte, cette personne concentre trop de pouvoir sur elle, il faut absolument que tout de suite, on pense à ce qu'elle ait beaucoup moins de pouvoir et qu'on fabrique des rôles en fait artificiels qui permettent de contrebalancer ou de rendre l'organisation résiliente. Donc ça, c'est des gros arguments aujourd'hui, de dire non mais tu te rends pas compte, cette personne contrôle trop de choses. Et oui, mais attendez, est-ce que vous avez demandé à cette personne déjà ce qu'il en est? Et est-ce que elle-même, elle peut réfléchir? Parce que comme c'est elle qui concentre ça, c'est pas un hasard si c'est par elle que ça passe. C'est pas un hasard si c'est elle qui a matérialisé, qui incarne et qui réalise des choses dont tout le monde profite. Ça passe par une personne, oui ou non? À cet endroit-là, c'est oui. Il n'y a pas d'équivoque. C'est une personne, on peut le voir, tout le monde peut le voir. Ça, c'est une vérité. Il n'y a pas de trafic là-dedans. Donc, cette personne-là, elle concentre des choses pendant un temps. Et oui, bien évidemment, je rejoins l'opinion selon laquelle il est sain
que cette personne-là puisse être entourée, puisse être relayée, et que, effectivement, pour que l'organisation soit vraiment résiliente, il faut que, effectivement, il y ait des mécanismes de transmission pour que, justement, l'institution, la réalisation soit de plus en plus forte. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que ça, ça doit obligatoirement passer par des tiers extérieurs ou des gens qui viennent après la bataille, on va dire, pour dire « attention, hein, là, il faut absolument qu'on se mette à côté de toi » parce que... Ou est-ce que ça passe directement par la personne, où elle pourrait être interpellée sainement par des partenaires, par des collègues, par des camarades, qui disent, tu sais, là, à cet endroit-là, ce serait bien que tu commences à réfléchir, à imaginer que toi, tu te retires un peu, ou que tu sois pas la personne à travers laquelle tout passe, parce que c'est un danger. Effectivement, je peux me relier à cette opinion, que si cette personne venait à disparaître du jour au lendemain, ou qu'elle ait un problème, eh ben, ça fasse tout capoter. Donc, c'est vrai, ça, c'est vrai. Mais est-ce que par cet argument qui est vrai au départ, on en fait une perversion à un moment donné. Et on pervertit, à cause de cet argument, on vient chercher, on vient forcer finalement l'éclosion de la fleur, parce que n'importe quel porteur de projet qui est digne de ce nom, qui est vraiment dans le service qu'il a au niveau du projet qu'il développe, il peut être amené à être conscient de ça. Et il n'a pas besoin qu'on lui fasse 3000 arguments pour comprendre qu'à un moment donné, oui, il y a un moment de la transmission, il y a un moment comme ça de la personne source. Quand on connaît les notions de personne source, on sait que la source, elle se transmet. Mais ça se transmet dans une temporalité, ça se transmet dans des rencontres, ça se transmet dans des choses qui ne sont pas dogmatiques. Ça se transmet dans une inspiration. Ça se transmet par des gens, justement, qui vont être très, très, très au service et très proches déjà de la personne. Et que, d'une manière organique, ça va se transmettre naturellement.
Et tu as prononcé le mot « organique », et effectivement, un fondateur, une personne source, n'est pas seule dans son projet. La plupart du temps, bah, peut-être elle est seule si elle fait des peintures à l'huile et qu'elle a besoin de personne. Mais lorsqu'on est dans des projets collectifs comme les Oasis... Être personne source, c'est une fonction, c'est un rôle parmi d'autres, mais il y a dans la plupart des cas quantité d'autres rôles qui sont des sources spécifiques et qui donc incarnent avec la même posture de service d'autres fonctions qui sont vitales pour le projet. Donc un projet, c'est comme un organisme vivant avec des organes vitaux reliés entre eux, qui collaborent, qui coopèrent. Et dont il y a un fondateur ou une personne source. Mais ça, la personne source, elle ne va pas tenir tous les rôles, elle n'a pas toutes les fonctions vitales, elle n'a pas toutes les responsabilités, elle a que celles qui sont vraiment relatives à son rôle particulier. Donc il n'y a aucune raison que le projet tout entier s'effondre parce qu'il y a un organe à un moment donné qui est manquant ou qui est à remplacer, parce qu'il y a tous les autres qui sont là pour étayer le projet. Mais ce qui est vrai, c'est que la fonction source, elle est particulière et elle doit intégrer, et c'est là que la gouvernance dynamique l'intègre, un périmètre qui est incontestablement à respecter. Parce que si on ne respecte pas ce périmètre, alors effectivement, c'est là qu'on refait vivre des relations de pouvoir. Que si je viens te disputer ce que tu fais, ce que tu es, ce que tu penses, ce que tu crois à l'endroit de ta fonction, eh bien, effectivement, je suis en train de faire une forme de pression pour imposer mon point de vue. Et si je n'arrive pas à l'imposer par la manière douce, eh bien, j'utilise la manière forte. Et dans des collectifs qui se sont déclarés... coopératif, dans une démocratie directe, ben la manière forte, ça va être effectivement de rallier d'autres personnes à sa propre cause et à ses propres idées pour renverser ce qui va être nommé comme un pouvoir.
Et on revient complètement dans les processus ordinairement pathologiques dans lesquels l'humanité est engluée depuis la nuit des temps. C'est-à-dire qu'effectivement, les abuseurs deviennent les abusés, ceux qui étaient victimes deviennent les bourreaux, etc. etc. Donc on n'en sort pas. C'est pour ça que mettre l'accent, et ce sera, je pense, le mot de cette première partie, parce que la gouvernance dynamique, là, l'idée, c'est qu'on a fait une petite introduction, quand même, sur les grands fondamentaux qui nous animent, nous, pour mettre en place cette façon de coopérer dans les organisations, de manière lucide et vraiment très, très consciente des enjeux. Après, l'idée, ce sera de rentrer vraiment dans le détail. Hein, c'est pour ça que cette série de podcasts, elle est dédiée à plusieurs choses, mais entre autres pour celles et ceux qui ont vraiment envie d'aller plus loin, ça va être de décortiquer un petit peu les mécanismes très pratiques, pratico-pratiques, très concrets sur l'ensemble de ces questions-là. Et là, c'était un peu une façon de brosser, je dirais, le pourquoi on tient vraiment à clarifier notre différenciation par rapport à ces thématiques-là, notamment dans les milieux comme ça, où on crée des éco-villages, où il y a de l'écologie, ou même dans la politique, on parle de sociocratie, de choses comme ça, tout le monde en a plein la bouche, mais en fait, voilà, nous, comme on a quand même essuyé un peu des plâtres depuis une vingtaine d'années, on a vraiment à cœur de partager, de transmettre quelque chose de précis.
Oui, et du coup, peut-être pour résumer, ce qu'on a appelé à un moment donné la gouvernance partagée, c'est l'idéologie selon laquelle tout le monde a le même pouvoir au même endroit, que le pouvoir est partagé de manière équitable pour que chacun ait une sorte d'équivalence de pouvoir.
On parle d'équivalence, c'est ce que j'allais dire.
Oui. Alors que la gouvernance dynamique, ce sont des pouvoirs différenciés, des pouvoirs qui sont taillés sur mesure en fonction des rôles et des responsabilités qui sont prises au sein de l'organisation et qui sont des pouvoirs spécifiques et qui ont besoin d'être respectés en tant que tels pour pouvoir exister au sein du collectif. Mais vous allez voir quand on va détailler à quel point ça n'empêche absolument en rien et à aucun moment toute personne de l'organisation de ramener une tension. Le but, c'est pas de ravaler ces tensions. Ça n'a aucun sens. Une tension, elle est toujours utile, elle est toujours accueillie et elle peut être déposée au centre. Et lorsqu'elle est déposée au centre, on a vraiment le devoir de la considérer. Mais ce qui va changer, c'est que les personnes qui ont à charge les rôles relatifs à cette tension vont être entendues et écoutées dans leurs objections. Vraiment. Et donc, on ne va pas pouvoir prétendre à un moment donné que comme on est en démocratie, alors c'est à l'ensemble des parties prenantes de se positionner sur le sujet. Parce qu'à ce moment-là, on retourne fatalement dans des questions de majorité. C'est mécanique.
Et c'est une des raisons pour lesquelles ça peut heurter beaucoup de monde. Mais même si fondamentalement, nous sommes tous des êtres avec les mêmes droits, la même valeur et tout ce qu'on peut imaginer d'un point de vue fondamental, dès qu'on rentre dans le relatif de nos vies, de nos expériences, de notre expertise, de nos passions, de nos talents, de notre raison d'être, eh bien non, nous ne sommes pas équivalents. C'est tout.
Et je tiens à préciser aussi une chose qui est très importante, c'est que si cette notion de pouvoir différencier, elle est vraie pour un porteur de projet, pour une personne source, elle est vraie aussi pour les autres membres. C'est-à-dire que toute personne source ou tout fondateur que nous sommes, nous n'avons aucun droit d'imposer notre vision à la personne qui a le rôle de maraîcher, à la personne qui a le rôle de boulanger, à la personne qui a le rôle de comptabilité, à la personne qui a le rôle communication, etc. On peut apporter nos tensions relatives à notre rôle, évidemment. Si je suis personne source ou si je suis fondateur et puis que j'estime que la personne à la communication ne représente pas de manière réaliste et fidèle la raison d'être de notre organisation commune, je vais le déposer en tension. Évidemment que je vais le déposer parce que c'est mon rôle. Mais je ne vais pas pouvoir imposer mes préférences ou ma vision du monde à la personne qui exerce son rôle. Elle fait autorité dans le rôle qu'elle exerce.
Pour revenir sur la question de nous ne sommes pas équivalents, parce que je sais bien que c'est assez... Moi, je suis un peu provocateur des fois, mais par rapport à un exemple tout simple, comme un boulanger qui fait du pain depuis 20 années, quand on va apporter une tension sur le pain, etc., moi qui n'ai jamais fait de pain de toute ma vie, je n'ai jamais pris la moindre pâte, le moindre pâton, etc., et ben son regard, son expertise, évidemment, n'aura pas la même valeur que la mienne. Moi, je peux me positionner en tant que goûteur, c'est-à-dire que j'ai goûté du pain, je l'ai trouvé bon, pas bon, mais je ne pourrai jamais avoir d'avis sur le processus de fabrication, de pourquoi le levain il est comme ci, de pourquoi la température, l'hygrométrie. Si j'ai un avis sur cette question-là, ce sera un avis qui est complètement amateur, qui n'est fondé sur rien d'autre que rien, sur peut-être des bouquins que j'ai lus, sur la discussion que mon beau-frère il a eu avec moi parce qu'il connaît un boulanger qui un jour m'a dit que, mais ce n'est pas du tout fondé sur une expérience personnelle. Donc voilà, quand j'entends dire que notre parole n'a pas la même valeur, c'est de ça dont je parle.
Oui, ça c'est que à un moment donné, l'idéologie de l'équivalence peut être dictatoriale et ne reliée à aucune réalité qui serait utile et constructive pour la santé de l'organisation.
C'est ça. Comme vous le voyez, c'est un sujet qui nous passionne et pour lequel on sent qu'on a des choses à partager. Donc, on espère que ça vous inspire aussi et que ça vous fait cheminer dans votre perception de la coopération, notamment si vous développez des projets qui cherchent à ensemencer le futur aussi, l'avenir d'une autre façon. Alors nous, voilà, sachez qu'on va continuer de développer cette pratique de la gouvernance dynamique à travers d'autres podcasts pour rentrer beaucoup plus dans les détails.
Et parler de la notion fondamentale de posture, parce que si on ne parle pas de la posture, eh bien effectivement, tout ce qu'on vous dit là, ça reste très théorique. En fait, pour que ce soit réaliste de la mettre en œuvre, cette gouvernance dynamique, ben, il y a vraiment une question de posture qui est essentielle et dont on reviendra dans un prochain podcast. À bientôt.
Merci, à bientôt.